Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour bien commencer l'année, Franck Ferrand a choisi un sujet qui le passionne entre tous. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonne année.
Bonne année.
Bonjour
Franck.
À tout le monde. Alors ce sujet, c'est la civilisation crétoise. On l'appelle la civilisation minoenne, un monde à part, tout un univers aux sources, aux origines d'une autre, une société aimable, riante, colorée, dont vous pourrez admirer les témoignages dans une exposition qui se tient en ce moment même et pour quelques jours encore au musée de Saint-Germain-en-Laye. Ça fermera le 19 janvier, alors il faut vous dépêcher. Comment ne pas aimer ces ancêtres de l'Occident qui bâtissaient des palais et des cités aux vives couleurs, qui commerçaient avec le monde entier et qui apprivoisaient les dauphins.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sandrine. Elle souhaite savoir quand le français moderne est apparu.
Ah, mais ça, c'est une vaste question. Mais avant le français moderne, je vous propose d'aller faire un tour du côté du crétois ancien.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
J'ai vécu l'année dernière, donc en 2014, un grand moment. Dans le cadre de la croisière Historia, j'ai pu découvrir un lieu dont je rêvais depuis 30 ans. Knossos, le palais de Minos, les fouilles d'Evans près de Héraclion, en Crète, en l'occurrence. Et j'aimerais vous faire partager aujourd'hui mon émerveillement. Les anciens l'appelaient la Grande Île. C'était une possession de Venise, vous savez, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, une possession tombée aux mains des Turcs et intégrée à l'Empire ottoman. Un visiteur au XVIIe siècle la décrivait encore, néanmoins, comme le jardin de l'univers. Et c'est vrai qu'avec ses montagnes, ses plaines aux gorges profondes taillées dans la pierre à chaux, avec toutes ses grottes, avec ses vallées étonnantes, elle est d'abord un terroir. C'est étrange car on est sur une île, pas si grande île que ça, et c'est d'abord un paysage agricole et c'est d'abord une culture rurale qui vous saute aux yeux, sinon même à la gorge. Jusqu'au XIXe siècle, des légendes grecques, comme celle de Thésée et du Minotaure, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure avec Jean-Claude Simoen, suggéraient l'existence d'une grande, d'une étonnante civilisation en Crète. Mais elle ne faisait que suggérer cette existence. Si l'on en croyait ces légendes, Minos avait eu assez de pouvoir pour exiger d'Athènes un tribut terrible. Nous verrons en quoi il consistait tout à l'heure. Il a fallu néanmoins l'intervention des archéologues, il a fallu cet extraordinaire mouvement de découverte, de recherche du XIXe siècle pour qu'apparaisse ou que réapparaisse enfin la fabuleuse civilisation crétoise, ce monde minoen dans lequel je vous propose de nous immerger cet après-midi. En 1900, les équipes dirigées par Sir Arthur Evans, personnage formidable, Evans, un des archéologues les plus charismatiques de son temps, en 1900 donc, ces équipes entreprennent des fouilles sur le site de Knossos. Vous savez, Homer disait qu'il y avait 90 cités en Crète. Il avait sans doute un peu exagéré, mais c'était une façon pour lui d'évoquer l'incroyable prospérité des Minoens, une prospérité devenue légendaire. Quatre palais minoens nous disent aujourd'hui que la Crète était divisée en cités-états indépendantes. Alors, le plus extraordinaire, le plus splendide, c'était le palais de Knossos, mais il y en avait d'autres, et il y avait des villes, il y avait un système tout à fait inouï que Evans va donc mettre à jour peu à peu. Ses fouilles vont marquer l'histoire de l'archéologie. Evans est mort assez tard, en 1941, après avoir consacrer sa vie à faire connaître ses découvertes. Certaines de ses théories, évidemment, s'en allaient dans le mauvais sens. Un certain nombre des travaux qu'il a pu effectuer, notamment sur le site de Knossos, ont été largement critiqués, pour ne pas dire même beaucoup chahutés. Mais l'essentiel était là, qu'on le veuille ou non, c'est bien Evans qui a fait naître ou renaître les Minoens. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous commençons à savoir, à en savoir un tout petit peu plus sur eux. Je dis bien un tout petit peu plus. Il faut quand même vous dire que le goût des antiquités grecques, et notamment les ruines antiques, s'est répandu dans tout l'Occident au XVIIIe siècle, bien entendu, et encore plus au XIXe. Des sites comme Mycène ou Tirynthe étaient déjà connus, bien entendu. On s'est intéressé aussi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette fois, à la préhistoire grecque, qui devient une véritable discipline pour les savants qui vont redécouvrir ce qu'ils pensent avoir été le monde d'Homère et même le monde pré-homérique, avec des fouilles archéologiques qui commencent dans un certain nombre d'endroits de la Grande Grèce, de l'ancienne Grèce. Ça pouvait aller d'ailleurs jusqu'en Asie mineure, on en parlera tout à l'heure, et sur les rivages de la Turquie actuelle. Et puis donc, un petit peu en Crète. Au XIXe siècle, on s'aventure un peu en Crète, mais c'est tellement rural, je vous disais, la Crète. C'est tellement fermé, c'est tellement peu accueillant d'apparence que les touristes, si j'ose ce mot, qui s'aventurent jusque-là ne sont pas légion à l'époque. Les routes n'y sont pas sûres du tout. Il est très difficile pour le voyageur étranger de s'y orienter. C'est en 1878 que pour la première fois est repéré le site de Knossos par un antiquaire de Candie, un homme qui a l'habitude de faire de grandes transactions. Il s'appelait Minos, ça tombait bien, Minos Kalokairinos. Il fait quelques premiers sondages, disons des fouilles rudimentaires si vous voulez. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où Heinrich Schliemann, de son côté, est en train de devenir une célébrité pour avoir découvert trois, ou ce qu'il pense être trois, mais enfin je ne vais pas entrer aujourd'hui dans cette polémique, pour avoir découvert aussi le tombeau d'Agamemnon à Mycène, un inestimable trésor archéologique qui va donner à ces périodes reculées de la Grèce archaïque un intérêt, un lustre tout à fait nouveau pour les Occidentaux de l'époque. Il n'a jamais, cependant, notre Schliemann, il n'a jamais obtenu la permission de fouiller en Crète et il faut quand même dire qu'il en avait bien l'intention. Il avait d'ailleurs comme nouvel objectif à la fin de sa vie de découvrir le Dédale, de découvrir le fameux labyrinthe de Minos, hein, donc de Knossos, si vous voulez. Jusqu'à sa mort, à la fin de 1890, il en a gardé l'espoir. Et c'est donc un homme plus patient qui va lui succéder et qui va réussir là où lui-même avait échoué. Il s'appelle Arthur Evans, il sera un petit peu plus tard Sir Arthur Evans, bien entendu, et surtout, il a une chance, lui, inouïe, exactement ce qui était arrivé à Schliemann en Asie mineure d'ailleurs, à Hisarlik, c'est qu'il va devenir propriétaire du terrain, donc il est un peu chez lui, il est même carrément chez lui, et il va faire plus ou moins ce qu'il veut. Il va redonner vie à tous les vestiges de cette nouvelle civilisation, car, encore une fois, à l'époque, c'est une civilisation dont on avait complètement perdu la trace. Qui est-il, cet Arthur Evans? C'est le fils d'un riche entrepreneur, passionné d'antiquité. Il est extrêmement cultivé, hein. Il a reçu une éducation hyper solide. Son père s'appelait John Evans. C'est un personnage très charismatique qui a un véritable sens de la communication, comme nous dirions nous aujourd'hui. On disait à l'époque de la publicité au sens propre du mot, qui va lui permettre de donner un certain retentissement à ses découvertes. Son chantier de fouilles est donc ouvert en 1900 et on va travailler sur place avec des moyens que permettent la fortune et la passion d'Evans. On va y travailler sans interruption pendant 6 ans. Avec quelques campagnes qui dureront encore dans les années suivantes. Tout ça, presque tout ça, financé par la fortune personnelle de l'Anglais. Accusé notamment au sein de l'école britannique d'archéologie d'Athènes de ne pas être suffisamment compétent en matière de fouilles pour réaliser une entreprise de cette importance. Mais vous savez, dès que vous réussissez dans un domaine ou un autre, et lorsque votre réussite prend un tel éclat, c'est toujours la même chose. Les jalousies ne sont pas loin et les envieux se font connaître. Peu à peu, ce que Evans va faire sortir de terre, c'est un véritable palais. Et comme ce palais comporte des dizaines et des dizaines et des dizaines de chambres, de couloirs, de corridors, de cours, de terrasses, etc., il l'identifie tout naturellement au célèbre labyrinthe et il l'identifie à la demeure du roi Minos, au mythique palais de Knossos, qui, plus qu'un palais au sens habituel et moderne du terme, serait plutôt une sorte de très vaste résidence royale, une sorte de nœud économique, de très grand centre commercial. On peut dire que M. Evans n'a pas travaillé en vain.
Un extrait de la bande originale du film Jason et les Argonautes par Bernard Herrmann. On continue à suivre avec vous, Franck Ferrand, l'archéologue Arthur Evans, à la découverte de Knossos.
Alors, ce palais que Evans est en train de mettre au jour, il est en train de faire sortir de terre aux alentours de l'année 1900, on est là en 1903, 4, 5, c'est en vérité, je vous le dis, une sorte d'immense complexe qui ne présente pas une homogénéité totale d'ailleurs, disons-le. La première structure a l'air de dater d'environ 2000 avant Jésus-Christ, d'ailleurs elle est beaucoup plus simple que ce qu'on voit dans les strates supérieures. C'est la période dite des seconds palais, période néo-palatiale qui, elle, va voir éclore cet extraordinaire sens de la décoration, notamment. On est là dans les années 1700 à 1450 avant Jésus-Christ. C'est l'apogée de la civilisation crétoise. Et puis, il y aura encore une troisième période qui montrera cette fois une forte influence étrangère. Et on peut dire que la culture minoenne, à ce moment-là, est sur le déclin et qu'elle est même battue en brèche par ce qui semble bien être des envahisseurs venus avec leurs mœurs, avec leurs habitudes et avec leurs méthodes de construction. C'est peut-être un tout petit peu moins intéressant pour ce que nous voulons évoquer nous maintenant. Sur le chantier, on a quand même jusqu'à 300 ouvriers, vous imaginez, sur un territoire qui fait 3000 mètres carrés. Il faut voir ce que c'est qu'un cet ensemble palatial. Ça fait rêver n'importe quel archéologue d'aujourd'hui, bien entendu. Et l'on n'arrête pas de sortir de terre de véritables trésors, et notamment des trésors de peinture, des fresques d'une fraîcheur, d'une beauté, la fameuse fresque dite des Parisiennes avec ses femmes aux boucles extraordinaires, la fresque des dauphins avec ses animaux plus vrais que nature, et puis bien entendu les courses de taureaux, hein, où l'on voit ces athlètes sautant par-dessus des monstres de taureaux tachés comme des vaches normandes. Tout ça fait rêver, tout ça stupéfie bien entendu les découvreurs, et on transporte au fur et à mesure ces différents trésors au musée d'Héraclion, qui est juste à côté, enfin qui est à quelques kilomètres seulement. Ce que va faire Evans, et alors là, évidemment, ça commence à devenir un peu plus discutable, c'est qu'il ne s'en tient pas à cela. À partir du moment où il a fait des découvertes dans le sol, il se dit que s'il veut avoir une chance de faire connaître sa civilisation, et s'il veut que cela intéresse non seulement les visiteurs éventuels, mais tout simplement la communauté savante, il faut donner de l'éclat, il faut rendre un peu de majesté à l'ensemble, et c'est pour ça qu'il va avoir cette idée d'abord de repeindre un certain nombre de colonnes en rouge vif, en noir, de refaire des chapiteaux, puis carrément un jour de reconstruire les colonnes elles-mêmes. Et une fois qu'il a fait les colonnes, eh bien pourquoi pas reconstruire les corniches, et puis des corniches, on va faire des plafonds, des toits, etc. Et l'on voit Monsieur Evans qui se met à confondre un petit peu, il faut bien le dire, le travail de l'archéologue avec celui de promoteur immobilier. Il reconstruit un palais, alors évidemment exactement sur l'emplacement des vestiges, hein, à l'endroit exact où se trouvaient les anciens murs, les anciennes colonnes, les anciennes cours, mais il est en train de faire sortir de terre ce qui s'y était trouvé enfoncé par les siècles, et ça, il est tout à fait naturel que ça ait pu lui être reproché. Des bâtiments de 2, de 3, même de 4 étages, un grand escalier à triple volée qui conduisait au palais royal lui-même, tout ça est rebâti par Monsieur Evans, qui ne se gêne plus d'une certaine manière, mais ça ne doit rien enlever à l'incroyable importance de ce qu'il découvre. Je pense notamment à ces vases gigantesques qui étaient destinés à conserver le vin et le blé. Certains d'entre eux pouvaient contenir quelque 75 000 litres d'huile, vous imaginez. Et puis, un petit peu à l'écart de l'ensemble palatial, ce théâtre incroyable, une cour entourée sur deux côtés d'amples gradins qui pouvaient recevoir environ 500 personnes, qu'on appelle théâtre, mais qui d'ailleurs probablement était plutôt destiné à recueillir, à accueillir le public de manifestations rituelles, voire probablement religieuses ou sacrificielles. Ce n'était sûrement pas un théâtre au sens où nous l'entendons. Et puis du mobilier, et puis des objets d'art, le fameux trône d'albâtre, incroyable, dans ce qu'on appelle la salle d'audience. Évidemment, on a donné des noms occidentaux et des noms modernes à tout ça, puisqu'on ne sait pas comment vivaient ces anciens Minoens. On découvre les fresques, les décors, les sculptures, les peintures impensables des apparitions appartements de la reine Pasiphaé. En tout cas, c'est comme ça qu'on les identifie. C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Avec cet édifice aux doubles cornes sacrées qui atteste de l'importance du culte du taureau dans cette religion minoenne, on peut dire que le taureau était carrément au cœur de cette culture, disons-le, de cette civilisation et probablement de la religion qui allait avec. Alors des objets en or, en ivoire, en cristal, en veux-tu, en voilà, en cristal de roche, bien entendu, la plupart zoomorphes, avec aussi des motifs dits de croissance, hein, des motifs végétaux. La célèbre statuette de la déesse au serpent, représentée seins nus, un véritable symbole de fertilité, mais avec une taille mince prise dans un corsage ajusté, une jupe à large volant, et elle tient des serpents hein, dans chacune de ses mains. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est en présence d'une civilisation dont on a le sentiment qu'elle partage les mêmes critères, les mêmes goûts que nous. Les femmes y sont aussi belles que des modèles de 1900 ou d'après même. Les hommes y sont aussi modernes dans leur expression, dans leur tenue. Ça, c'est assez étonnant. On est dans une civilisation qui est très proche de la nôtre, qui nous parle. Vous imaginez le succès que ne pouvait manquer de remporter les travaux et les découvertes de Arthur Evans. Tous ces objets rituels, ces amulettes, ces bijoux, ces sceaux en or gravé, ces figurines en posture d'adoration, ces céramiques d'une très grande finesse, ces plaquettes de faïence qui représentent des maisons minoennes en miniature. Tout ça nous fascine évidemment, et d'autant plus que c'est découvert en état de conservation absolument excellent. Le raffinement est là, mais les objets se sont maintenus jusqu'à nos jours. Alors Evans va publier une documentation immense, il va lancer des études sur cette civilisation minoenne entre 1921 et 1935. Tout ça va paraître en 6 volumes et ça va servir de base à toutes les recherches ultérieures. Une des découvertes les plus fabuleuses, ce sont donc ces fresques qui gisaient en 1000 morceaux dans les ruines, parce qu'au départ on a découvert des petits morceaux, hein. C'était un véritable puzzle, alors là vraiment au sens propre. Mais tout de suite, les archéologues ont été frappés par les couleurs rouge, bleu, vert émeraude, noir, très blanc, et puis par le très beau dessin. On a découvert en rapprochant cette aisselle et en reconstituant le puzzle, on a vu se dessiner ces femmes aux cheveux bouclés, ces hommes au corps souple, ces fleurs, ces animaux, ces taureaux récurrents, ces images de jeunes gens qui voltigent dans une sorte de danse acrobatique sur un taureau lourd et massif. Tout ça, bien sûr, va fasciner les contemporains, et l'historien Gustav Glotz décrit ces différentes phases, hein, les différentes phases de cette civilisation. Le rituel de lutte contre le taureau, un des exercices de compétition les plus fréquents chez les Minoens, devient en quelque sorte le signe de ralliement de tous ceux qui se passionnent pour cette civilisation.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'archéologue Arthur Evans et à la découverte de Knossos.
Croyez-vous qu'Arthur Evans se serait contenté de sa découverte? C'était déjà pas mal d'avoir vu tout ça. Eh bien, il faut qu'il lui donne une histoire, qu'il lui confère un mythe en quelque sorte, ou qu'il la raccroche à la légende, et il se met en tête qu'il a véritablement, un petit peu comme Schliemann avec son histoire de Troie, il avait découvert un site archéologique dont il a voulu à tout prix que ce soit la Troie d'Homère, et bien de la même façon, c'est ce qui se passe avec Evans, qui veut absolument avoir découvert le palais de Minos, et alors il en est à chercher la galerie où aurait été enfermé le Minotaure. On va voir dans un instant qui était ce monstre fabuleux du Minotaure. Hérodote semble avoir été le premier auteur à utiliser ce terme de labyrinthe pour définir un lieu aux rues inextricables où l'on perd facilement son orientation. Mais quand Hérodote écrit, on est des siècles et des siècles après la civilisation minoenne. Nous ne savons pas du tout comment les Minoens à l'époque, à l'origine, appelaient l'antre du Minotaure. Les auteurs antiques rapportent que le labyrinthe de Knossos avait été construit par l'architecte Dédale. Encore une fois, on est là dans le savoir rituel et dans le savoir légendaire. Ce qui est certain, c'est que les vestiges qu'on a découverts à Knossos sont ceux d'un palais d'une telle complexité qu'il peut avoir servi de modèle ou d'inspiration à la légende du Minotaure. Evans va émettre un certain nombre d'hypothèses. Il dit que le labyrinthe correspondait au palais de Minos lui-même et qu'il se trouvait dans les souterrains. Et personne n'a jamais pu confirmer, évidemment, cette hypothèse. Personne n'a jamais pu non plus l'infirmer. Il est peu probable qu'un monstrueux minotaure ait jamais été enfermé dans le palais du roi, mais il est absolument certain que pour tous les visiteurs extérieurs, et ils étaient nombreux dans cette civilisation entièrement ouverte sur ses voisines, tous ont dû comparer ce gigantesque palais ou ce complexe palatial à un labyrinthe qui, de ce point de vue, garde, vous le comprendrez, tous ses mystères. Le chantier de Knossos s'est développé, on l'a peu à peu ouvert aux premiers visiteurs qui ont afflué dans les années 20, dans les années 30. Knossos devient un véritable must, il faut aller voir les fouilles de Monsieur Evans. C'est la première grande fouille scientifique du reste menée en Crète, avec un soin extrême en dépit de certaines licences qui ont pu être prises. Ce sont les premières fouilles qui aient été entièrement mesurées, métré, confirmé par strates, etc. Et que découvre-t-on sur ce chantier? Eh bien, 3000 tablettes environ qui portent des inscriptions, et là c'est tout à fait inouï, ce sont des inscriptions dans une langue alphabétique. Ah, ça change tout. Il y a une très ancienne langue qui avait un aspect pictographique et qui semblait fonctionner sur le même modèle que l'écriture des Égyptiens anciens. On appelle ça d'ailleurs les hiéroglyphes crétois. Bon, ça, très bien. On est en train actuellement de revenir d'ailleurs sur ces anciennes théories et on se demande si cette toute première langue crétoise ne serait pas une langue qui ressemblerait au proto-cananéen, auquel cas on serait dans une langue déjà pré-alphabétique. Et puis, deux écritures qu'on va appeler le linéaire A et le linéaire B. Le linéaire B a été déchiffré en 1952 par Michael Ventris, qui était un passionné d'écriture antique. Alors, ce linéaire B présente de très grandes similitudes avec la langue grecque archaïque. Et puis, le linéaire A, qui lui n'est toujours pas déchiffré. On a réussi à identifier un certain nombre d'idéogrammes, mais on ne sait pas exactement ce qui est écrit sur les fameuses tablettes. Ça fait partie des mystères de la civilisation minoenne et il est certain que si l'on pouvait déchiffrer tous les textes que nous ont livrés les fouilles, alors on pourrait en dire davantage sur les modes de vie, sur l'histoire tout simplement, sur les dynasties, etc., sur l'organisation sociale, politique, éventuellement guerrière, en tout cas commerciale, de ces Minoens de l'époque. Permettez-moi quand même, et c'est une des questions que je vais poser à Jean-Claude Simoen dans un instant, permettez-moi de souligner qu'on ne constate dans toute cette civilisation, pour l'instant, aucune trace de violence organisée. Est-ce à dire que les Crétois ne connaissaient pas la guerre? Alors là, vraiment, vous avouerez qu'ils ont tous les arguments pour nous faire rêver. Bonjour Jean-Claude Simoen. Avec vous, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur les fameux Minoens. Nous allons revenir à Knossos et nous allons entrer dans l'antre du Minotaure.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et en ce 1er janvier, nous sommes au cœur de l'histoire de la Crète antique. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Claude Simoen, éditeur, créateur et directeur de la collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plon.
Jean-Claude Simoen, vous qui êtes l'historien de l'archéologie et qui connaissez bien les archéologues, comment considérez-vous Sir Arthur Evans? Est-ce qu'il fait partie de ceux que vous aimez bien ou de ceux qui méritent d'être critiqués?
Je vais citer tout de suite Henri Miller et je vais répondre à votre question. Henri Miller arrive sur le site de Knossos et découvre cette légende.
On parle bien de l'écrivain américain. Hein,
ouais. On parle de l'écrivain américain qui va écrire un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Colosse de Maroussi, dont nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Miller, d'emblée, est à Knossos et dit « L'esthétique des travaux de restauration de Sir Arthur Evans a suscité nombre de controverses. Impossible pour moi d'arriver à une conclusion sur ce point. J'ai accepté la chose comme un fait. » Quel qu'ait pu être l'aspect de Knossos dans le passé, quel qu'il puisse être dans l'avenir, celui que lui a prêté Evans est le seul que je connaîtrai jamais. Je lui suis donc reconnaissant de ce qu'il a fait, reconnaissant de m'avoir permis de descendre le grandiose escalier, permis aussi de m'asseoir sur ce trône merveilleux dont la réplique au tribunal de la paix de La Haye est aujourd'hui presque autant que l'original une relique du passé. » Voilà la première impression d'un écrivain américain qui, en plus, a un esprit d'ouverture. On en reparlera tout à l'heure. Alors, pour répondre à votre question, et pour bien comprendre, tous les historiens, vous avez cité Glotz tout à l'heure, je pourrais citer Henri Pirenne, tous disent, effectivement, il a fait un à la manière d'eux. Mais tellement près, vraisemblablement, historiquement, de l'original, qu'on peut difficilement de lui reprocher. L'ensemble des historiens qui se sont penchés sur les travaux de restauration, sur ce qu'il s'est permis de remettre en verticalité, tous reconnaissent qu'il est certainement quelqu'un dont on peut saluer tous les mérites, car il a travaillé, en plus, tous reconnaissent, scientifiquement, à une époque où...
Il est le premier, finalement, à travailler de cette manière si scientifique.
On fouillait de manière un petit peu cavalière.
Mais oui, c'est ça. On voit, par exemple, lorsque Schliemann fouille Troie, il fait jeter, littéralement, à la benne les quatre premières strates archéologiques pour descendre à la cinquième, et puis il se rend compte que celle qui l'intéressait était peut-être la troisième. Mais c'est trop tard, il n'y a plus rien. C'est pas du tout le genre de comportement d'un Arthur Evans, même si, à côté de ça, alors il reconstruit, il rebâtit, il remet les colonnes droites, etc. Il les repeint, il leur redonne ses couleurs. Alors, pour ceux qui n'auraient pas à l'esprit ce à quoi ressemble le fabuleux palais de Knossos, dont la visite vaut vraiment le voyage. C'est un moment, moi j'étais pas du tout déçu. Vous savez, quand vous attendez quelque chose depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, parfois vous êtes un peu déçu. Là, c'est pas le cas. Vous êtes happé, vous êtes complètement ébahi par ce que vous avez sous les yeux. Ces colonnes inversées, c'est-à-dire que la petite section est à la base et puis ça va s'accroissant vers de très grands chapiteaux. Toutes ces peintures, toutes ces fresques, il y a une fraîcheur dans tout ça. On a l'impression que c'était hier.
Il faut que les auditeurs, les auditrices comprennent que ce 18e siècle avant Jésus-Christ est pratiquement en qualité, en richesse de décoration, de peinture, de bijoux, de qualité de vie, de somptuosité quotidienne, exactement l'équivalent de notre 18e siècle européen après Jésus-Christ.
C'est ça.
Car quand on regarde la beauté des bijoux, la qualité des porcelaines, la décoration de la vaisselle, la somptuosité des habits, des parures.
Mais tout ça sans afféterie. C'est ce qui est assez étonnant lorsqu'on voit les très belles fresques. Alors je parle des fresques authentiques du musée d'Héraclion, puisque sur place, dans le site lui-même, on n'a que les reproductions. Mais quand vous voyez les fresques originales, un peu dévorées par le temps, évidemment, elles sont un tout petit peu parcellaires, vous vous rendez compte de la pureté du trait, de la simplicité. Ça ferait presque penser, vous savez, à l'esthétique art déco des années 1930 en Europe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très épuré, de très simple comme ça, qui laisse entendre qu'on est au sommet d'une civilisation très ancienne.
Alors, on parle de cette civilisation minoenne, égéenne. On la compare à la civilisation mésopotamienne. On la compare surtout à la civilisation égyptienne. Et c'est tout sauf faux. Car pour qu'on comprenne bien le parallèle historique, nous sommes en Égypte pharaonique à l'époque des Hyksos. Mais des Hyksos qui ont été égyptianalisés. Et donc, ils ont été conquis donc par Ramsès II, et la civilisation va donner quelque chose de grandissime. Je pense même, mais c'est une opinion qui n'engage que moi, elle est très personnelle, que la grande civilisation pharaonique, c'est celle du 17e et 18e dynastie. C'est exceptionnel. L'art est à son apogée. Eh bien, nous sommes à cette
exactement
la même époque en Crète.
16e siècle avant notre ère, 17e même.
Exactement.
Et avec une sorte de plaque tournante, puisque la Crète commerce avec toutes les régions de la Méditerranée, l'Égypte notamment, mais pas seulement, avec en Anatolie la civilisation des Hittites, avec les Phéniciens aux marches du Levant. Toutes les civilisations ont eu des liens avec la Crète. C'est
alors,
quand même
la grande
incroyable.
Île, effectivement...
Il faut dire qu'elle est au milieu.
Voilà, elle est vraiment au milieu, et cette grande île va donner un peuple de marins qui vont donc commercer avec toutes les grandes civilisations. Vous disiez tout à l'heure, mais c'est extraordinaire, il semblerait qu'il n'y ait jamais eu de conflit, qu'il n'y ait jamais eu d'invasion. Un peu, mais pas beaucoup.
Ou sur, tout à fait à la fin, semble-t-il.
Oui, ce qui a fait que les châteaux forts de la Crète ancienne, antique, la première période, ont été détruits, ont été remplacés par les palais somptueux, dont celui de Knossos. C'est pas le seul, mais c'est le plus spectaculaire, bien évidemment. Donc ces gens étaient des commerçants. Mais ils étaient aussi des agriculteurs. La société rurale crétoise est une société qui va, on va dire, va vivre à la fois de l'agriculture et, on dirait maintenant, de l'immobilier. Donc la richesse de décoration intérieure n'a d'équivalent qu'avec la qualité des maisons qu'ils vont construire. Le grand historien Henri Pirenne parle, il est belge, et il dit, ça m'a beaucoup amusé, que pour s'imaginer de voir ce qu'était l'habitat à cette époque-là, on ne parle pas des grands palais, on parle de l'habitat des bourgeois, des gens qui s'étaient enrichis par le commerce. Eh bien, l'habitat quotidien était très luxueux. Les façades pouvaient correspondre en décoration extérieure et en richesse intérieure à ce que sont les hôtels particuliers de la Belgique de Léopold II. La comparaison est osée, mais elle est juste quand on voit certaines fresques auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure et que l'on voit au musée et qui sont très spectaculaires.
Ah oui, c'est
On est dans la beauté, c'est-à-dire on est dans l'esthétique.
Bien sûr, et les objets d'orfèvrerie notamment sont très très raffinés. On est dans ce qui s'est fait évidemment de mieux et dans un style tout pont coupé avec le reste, c'est même mieux que ça. Il semblerait bien que l'art crétois ait influencé, avec ses spirales, avec ses structures de croissance, etc., ait inspiré un certain nombre d'autres arts tout autour de la Méditerranée, y compris celui des Égyptiens, figurez-vous. Il semblerait que les fameuses couleurs qu'on retrouve dans les tombes égyptiennes, etc., ne soient pas sans lien avec les peintures crétoises.
Alors on peut dire ça, mais on peut également voir une gigantesque différence, c'est qu'il n'y a pas d'art monumentaliste.
Ah non, du tout.
Il n'y a pas de sculpture très importante. Tout est, j'oserais presque dire, à dimension humaine.
C'est ça.
C'est-à-dire le contraire de ce que va être la Grèce. Mais on est dans la Grèce archaïque.
Et de ce qu'était l'Égypte surtout. Et la Mésopotamie, n'en parlons pas.
Assurément.
Etc. La Perse, avec ses espèces de constructions gigantesques, écrasantes. Là, on est dans quelque chose, ce sont des maisons d'habitation. Même ce qu'on appelle un palais, ça n'est jamais qu'une sorte de gigantesque hôtel, si on devait comparer avec ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui.
Et très luxueusement installé, vous. Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion à juste titre de Heinrich Schliemann. C'est extraordinaire, je pense que Arthur Evans, avec toute l'opiniâtreté, toute la culture, toute la richesse aussi, héritée de papa et de sa bénédiction, tout autant, on peut dire que la mythologie est à Schliemann ce que la mythologie est à Evans, pardon, ce que Homère est à Schliemann.
Oui, exactement.
Et on ne peut pas expliquer le palais de Minos, on ne peut pas expliquer cette civilisation sans parler, me semble-t-il, un tout petit peu de mythologie.
Et la mythologie en question, c'est l'histoire du Minotaure, justement.
Alors, c'est d'abord l'histoire de Minos et de son épouse, Pasiphae.
Voilà.
Pasiphae, il faut savoir, à l'origine...
Ça a permis à Racine d'écrire un bien joli vers.
Magnifique.
La fille de Minos et de Pasiphae.
Et donc, à l'origine, on sacrifiait à Zeus un taureau. Chaque année, c'était un rituel, mais l'année en question, le plus beau taureau du troupeau est un taureau blanc. Et Minos ne veut pas sacrifier ce taureau blanc. Et évidemment, Zeus va s'en rendre compte et va punir Minos en faisant en sorte, nous sommes dans la mythologie bien évidemment, que Pasiphae va tomber amoureuse du taureau blanc. On est là dans une histoire très mythologique. Mais elle est très intéressante parce que, évidemment, on va construire ce que les Grecs appellent un dolos, c'est-à-dire qu'une vache d'airain. Pour vous imaginer qu'une dame normalement constituée peut difficilement recevoir les assauts d'un taureau aussi beau soit-il. Et donc, pour que l'union puisse se faire, évidemment le fruit de cette union va être un être abominable qui est le Minotaure. Et le Minotaure, on va l'enfermer dans un labyrinthe construit par Dédale. Nous sommes toujours dans la mythologie, mais tout se tient en Crète.
Bienvenue dans la légende.
Voilà. Si on n'a pas et si on ne connaît pas cette histoire. Évidemment, chaque année, on va sacrifier 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons au Minotaure. Et donc, c'est tout simplement abominable, qui va évidemment
s'empresser. Pour le nourrir.
C'est pour les nourrir. Il va les dévorer. Et donc, il y en a un qui va venir plus courageux que tous les autres. Et qui va, évidemment, qui s'appelle Thésée.
Il est athénien, et on va voir pourquoi il vient d'Athènes dans un instant.
We'll be right back.
cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la Crète antique avec votre invité Jean-Claude Simoen, éditeur, créateur et directeur de la collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plon.
C'est la belle histoire du courageux Thésée, l'Athénien, qui vient se mêler aux sept jeunes gens et sept jeunes filles promis en tribu au Minotaure que nous raconte Jean-Claude Simoen. On est au cœur de la légende du Minotaure.
Alors donc, Thésée, qui est fort, qui est courageux,
fils du roi Égée,
oui, et va rentrer dans le labyrinthe et va vaincre le Minotaure. Mais il faut sortir du labyrinthe. Heureusement, la jeune fille dont il était tombé amoureux, qui s'appelle Ariane, lui a donné une pelote de fil, d'où l'origine du fil d'Ariane.
C'est-à-dire qu'il a déroulé la pelote derrière lui à travers tout le dédale du labyrinthe, il peut en sortir.
Et retrouver la vie au plein air.
On ne peut pas dire qu'il ait été d'ailleurs d'une grande gratitude envers Ariane, puisqu'il n'aura de cesse que de l'abandonner sur la plage de Naxos, si je ne m'abuse.
Exactement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour la Crète, parce que l'homme qui a construit le labyrinthe s'appelle Dédale. Il a un fils qui s'appelle Icare. Tous les deux sont effectivement à l'intérieur, mais veulent à la fois sortir du labyrinthe, mais surtout s'échapper de la Crète. Et Dédale, qui est un génial constructeur, c'est lui qui a construit déjà cette vache d'airain qui va permettre cette union contre nature, va imaginer...
D'airain, c'est-à-dire de bronze.
Oui, bien sûr. Voilà, il va imaginer de mettre...
C'était l'insémination artificielle avant l'heure, si je puis dire.
On peut dire ça. Voilà. Et donc, il va imaginer, pour s'évader de la Crète, qu'il va fixer à son fils Icare et à lui-même des ailes, de grandes ailes, collées avec de la cire, en expliquant bien évidemment à son fils Icare qu'il ne faut pas qu'il s'élève trop haut, car le soleil risquerait
de faire fondre la cire.
De faire fondre la cire, et la chute serait fatale. Et bien évidemment, c'est ce qui va arriver. Dédale va, lui, pouvoir s'évader de la Crète, et Icare, le célèbre tableau de Bruegel, la fameuse chute d'Icare, où on voit tout le monde sur cette île absolument merveilleuse cultiver son lopin de terre, on ne voit que quelques ailes comme ça qui s'engouffrent à jamais dans l'océan. Voilà, la mythologie explique beaucoup de choses, comme Homère peut expliquer beaucoup de choses.
Mais on peut imaginer que ceux qui ont fixé cette légende, beaucoup, beaucoup plus tard, presque 1000 ans plus tard, dans la Grèce classique cette fois, on reproduit les savoirs traditionnels d'un certain nombre de d'aèdes ou de prêtres ou que sais-je, crétois. Donc il y avait sans doute une substance, il y avait sans doute une origine à cette légende, comme
Alors,
bien souvent.
Avait, comme toujours, parce que Homère n'était pas le seul aède, c'était la tradition. La littérature était celle de l'oralité. On allait de village en village, de pays en pays, Hérodote raconte ça très très bien, pour aller raconter les histoires de l'histoire, bien évidemment.
Alors, ça c'est la légende, mais qu'en est-il de la réalité, Jean-Claude Simoen? J'ai dit tout à l'heure qu'on ne savait pas lire le linéaire A, qui est la langue principale utilisée sur les tablettes qui ont été découvertes dans les fouilles d'Evans et de ses successeurs. J'ai dit que la civilisation crétoise, dite minoenne, recelait encore de très nombreux secrets et mystères. Que savons-nous au juste de la vie de ces Crétois au 15, 16, 17e siècle avant notre ère? Comment était organisée la société, par exemple? Est-ce que c'était des royaumes? Est-ce que c'était des cités-états, peut-être, pense-t-on?
Alors, je parlais de ruralité tout à l'heure. La Crète était très peuplée, et pas uniquement en bord de mer, c'est-à-dire les ports, ils sont toujours là, mais cette société était une société rurale, une société agricole et de riches commerçants, mais aussi à la fois de cultivateurs et de navigateurs. Donc ces gens étaient extrêmement riches. Et la vie quotidienne était d'autant plus agréable, c'est qu'il n'y a jamais eu d'agression, ou quasiment jamais. Donc c'est un grand mystère. Ce mystère n'en est, pour les historiens, pas vraiment un, dans la mesure où cette grande île est en dehors de tout. Ceci expliquant cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invasion barbare. Encore que le barbare, pour le grec, c'est celui qui ne parle pas grec. Donc il faut faire très attention quand on parle de la Crète ancienne, car on sait maintenant, historiquement, avec les archéologues qui ont fouillé, qui ont étudié cette écriture à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, le fameux linéaire B, c'est-à-dire cette écriture syllabique, qui est peut-être d'ailleurs l'ancêtre de l'alphabet. Il faut dire qu'on n'a pas, pour déchiffrer ce linéaire A et ce linéaire B, nous n'avons pas, comme Champollion l'a eu avec la fameuse pierre de Rosette, trois écritures, ce qui simplifiait.
Il n'y a pas d'élément de comparaison.
Il n'y a pas d'élément de comparaison. Et c'est la même chose pour l'écriture sumérienne avec Grotefend. Et donc, c'est un peu difficile. Donc, on tâtonne encore. Mais on sait, ça c'est une réalité, que ces gens parlaient le grec ancien pour le quotidien et pour la langue commerciale, l'araméen. Ça, c'est une certitude.
Oui, et cette langue commerciale était d'autant plus importante qu'ils effectuaient, encore une fois, un très grand nombre d'échanges avec toutes les civilisations du bassin méditerranéen. Pour revenir à l'île elle-même, alors beaucoup de marins, bien entendu, beaucoup de paysans, tout ça organisé en petites cités, enfin, ou grandes cités d'ailleurs. C'est Homère qui parle de l'île aux 90 palais, dit-il.
Oui, je pense qu'Homère s'est laissé emporter par sa parole, qui était une parole extrêmement intéressante, mais non, la Crète n'a jamais été peuplée de manière aussi importante. Non, je pense qu'il y avait quelques petites cités, quelques ports relativement importants, mais rien de plus. Mais c'est, quand je parle de petites cités, les archéologues, dont Henri Pirenne, dont Glotz, donc les gens sérieux de référence, parlent quand même de pas loin de 100 000 personnes.
Oui.
Ce qui, déjà, à cette époque-là, est considérable.
Oui, mais en même temps, ça reste tout à fait nombrable d'une certaine manière.
Si on compare avec certaines villes que nous découvrons actuellement à la frontière du Pakistan, la vallée de l'Indus, alors là maintenant les archéologues ont découvert des cités qui sont entre 400 et 700 000 personnes. Oui. C'est considérable.
Oui. Ces personnes, on ne sait pas tout à fait comment elles s'articulaient, comment elles vivaient ensemble. On ne peut que le déduire d'un certain nombre de vestiges archéologiques. On a quand même, ça c'est une chance, ces fresques qui nous montrent les tenues, qui nous montrent la santé resplendissante. Alors peut-être que c'est une vision idéalisée des choses.
Alors, c'est-à-dire que ces gens commerçaient. Ils allaient acheter des soieries, ils allaient acheter des parfums, ils allaient acheter du bronze, du cuivre, mais ils exportaient aussi.
Donc, céramique notamment.
Inévitablement, comme toutes les grandes civilisations de cette époque-là, le commerce va faire en quelque sorte vous buvardiser, vous vous caméléoniser sur l'autre, dans ce qu'il a de meilleur. Et ce n'est pas un copier-coller, mais c'est simplement quelque chose qui est redigéré. Et c'est d'ailleurs toute l'exemplarité de cette grande civilisation crétoine qui va devenir après par la suite la civilisation mycénienne, ou en tout cas créto-mycénienne, avec un art de la bijouterie, de la décoration, de l'habillement, des tissus qui nous laissent pantois pour ce que nous voyons maintenant. Et on a quand même découvert beaucoup de choses.
Paul Fort avait écrit un très beau livre sur la vie quotidienne en Crète au temps de Minos. C'est un des plus jolis livres qu'on puisse lire en matière archéologique, justement. Et il nous parle de cette civilisation du taureau. Il dit que le taureau est très central dans cette société, bien entendu. On le voit sur toutes les représentations, sur les vases rituels, etc.
Le taureau est partie prenante, mythologiquement parlant, de toutes ces grandes civilisations du bassin méditerranéen.
Mais semble-t-il dans la vie quotidienne aussi, au-delà de la mythologie?
Mais c'est également chez les pharaons, bien évidemment. Donc c'est Mariette qui va découvrir et dans la plaine de Memphis. Et donc, mais on a ça dans toutes les grandes civilisations, le taureau. Mais là encore, c'est l'origine, elle est mythologique. Hein. C'est, bien évidemment, c'est le Minotaure.
On ne sait pas grand-chose de la religion des Crétois, mais on sait qu'ils accordaient une très grande importance aux rites funéraires. Il y a le mystère des fameuses baignoires. Vous savez, alors, ces baignoires qui, semble-t-il, étaient des baignoires, qui servaient à prendre des bains, peut-être rituels, ça on n'en sait rien, mais qui pouvaient aussi faire office de tombe et qui présentent des décors absolument extraordinaires.
Alors on subodore qu'effectivement il y avait cette double utilité quotidienne, si je puis dire. On a, en déchiffrant le linéaire B, on s'est aperçu que cette langue, qui était donc cette langue quotidienne, était assurément le grec ancien. Et donc on s'est rendu compte, les archéologues maintenant acceptent, sans avoir pu encore déchiffrer le linéaire A, que la vie quotidienne, les dieux, était grec. Le Panthéon était grec. On retrouve dans ce que l'on a pu traduire de ces fameuses plaquettes d'argile le nom d'Artémis, le nom de Zeus, le nom d'Athéna, de Poséidon. Donc c'est la mythologie grecque. Et on est là dans la culture grecque.
Que s'est-il passé pour que cette civilisation minoenne disparaisse, semble-t-il, assez brutalement au milieu du XVe siècle avant notre ère? Certains disent qu'il y a eu un tremblement de terre, un tsunami.
Il y a deux thèses. Les archéologues ont du mal à se mettre d'accord. Les uns et les autres en restent à ces deux thèses. La première, un gigantesque cataclysme qui pourrait être très cohérent dans cette région du monde. C'est-à-dire tout s'est écroulé, un tremblement de terre. La deuxième, qui est plus contestée, plus contestable peut-être aussi historiquement, une révolte sociale devant l'énormité des palais construits par les gens qui détenaient le pouvoir. Les historiens sérieux, Glotz qu'on a cité, et Henri Pirenne, contestent cette deuxième hypothèse et en reviennent à la première qui, encore une fois, je réitère, est tout à fait cohérent dans cette partie du monde.
Et puis il y a ces traces d'incendie sur tous ces palais, etc., qui laissent entendre qu'il y a eu par là-dessus des invasions. Alors est-ce que c'est quand la civilisation minoenne a perdu sa force en quelque sorte et son éclat qu'elle a ensuite subi les assauts d'envahisseurs, ou est-ce que ce sont les envahisseurs qui lui ont fait perdre son éclat? Personne ne peut répondre à ça.
On ne peut pas répondre. À l'heure actuelle, sur les connaissances, et Dieu sait si elles sont devenues importantes, de tous les archéologues et historiens qui se sont penchés sur cette civilisation, nous n'en sommes qu'à des hypothèses.
Est-ce qu'on pourrait finir, comme on a commencé ensemble, cher Jean-Claude, par un extrait de ce Colosse de Maroussi de Henry Miller, qui est tombé lui aussi amoureux de la Crète et de ses vestiges?
Écoutez, Miller est invité en Crète, en Grèce en général, et en Crète en particulier, par son ami Laurence Durel. Et c'est un éblouissement. Il découvre Knossos, il dit « Soudain, à ma gauche, j'aperçus un pavillon pelé aux colonnes peintes de couleurs crues et hardies, le palais du roi Minos. J'étais devant l'entrée de derrière des ruines, au milieu d'un bloc de bâtiments qui avait l'air d'avoir été dévasté par le feu. J'y fais le tour de la colline pour arriver à l'entrée principale et suivi un petit groupe de Grecs dans le sillage d'un guide qui parlait une sorte de langage boustrophédonique. » Ça, c'est du Miller tout craché. Pur pélagien pour moi. Et alors, il dit que Knossos est beaucoup plus proche de l'esprit des temps modernes du XXe siècle que certaines autres époques plus tardives du monde hellénique. Et il ajoute, la Crète est un berceau, un instrument, une éprouvette qui vibre encore de l'expérience volcanique à laquelle on s'est livré sur elle. La Crète a le don d'imposer silence à l'esprit, de calmer le bouillonnement de la pensée depuis très longtemps. Je brûlais follement de voir la Crète, de toucher le sol de Knossos, de contempler une fresque fanée, de fouler le sol qu'ils avaient foulé. Au-delà de Knossos, ma pensée n'imaginait rien d'autre qu'un grand désert australien. Homère avait eu beau chanter les 100 villes de la Crète, j'en ignorais tout, n'ayant jamais pu me résoudre à lire Homère. Que l'on eût trouvé des reliques de la période minoenne dans la tombe d'Akhenaton, je l'ignorais aussi, je ne savais ou plutôt ne croyais qu'une chose, qu'ici même, à Knossos, dans une île que de nos jours presque personne ne pense à visiter, on avait vu naître quelques 25 ou 30 siècles avant l'aube de ce fléau qu'on appelle le christianisme. Et j'ajoute justement ça, alors il dit, Knossos, ou ce qui s'y passa voilà près de 50 siècles, me fait penser au moyeu d'une roue auquel on aurait fixé de nombreux rayons pour les y laisser pourrir. C'est la roue qui fut la grande découverte. L'homme depuis s'est perdu dans un dédale d'inventions chétives.
C'est le terme qui convient, un dédale. Merci beaucoup Jean-Claude Simoen. Je suis ravi que grâce à vous et grâce à Arthur Miller, nous ayons commencé l'année en compagnie des chers Minoens. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Perrin l'année dernière, « À la recherche des civilisations disparues, archéologues et aventuriers », et puis « L'épopée de l'archéologie » est réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, donc chez Tempus. Les archéologues, ça nous ouvre encore bien des sujets d'émission à venir.
Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Sandrine sur l'apparition du français moderne.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sandrine. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Sandrine vous demande quand le français moderne est-il apparu?
Alors je ne vais pas revenir sur toute la généalogie de la langue française, ce serait passionnant. Et d'ailleurs, nous l'avions fait ici même, il y a quelques années. Et je me rappelle d'une émission très riche et très intéressante. Ça mériterait peut-être qu'on y revienne un jour. Toujours est-il que C'est en 1539, c'est l'ordonnance d'août 1539, la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts, qui va faire du français la langue officielle, en tout cas la langue utilisée dans les actes officiels. Alors, j'ai eu l'occasion dans un ouvrage récent de dire ce que je pensais de la question. François Ier n'avait absolument pas l'intention de généraliser le français. C'est son chancelier, Poyet, qui a utilisé ce moyen pour essayer de désencombrer un peu les tribunaux qui, à l'époque, croulaient sous les procès d'interprétation du latin. Vous savez, cette espèce de latin juridique qui était devenu une sorte de latin de cuisine auquel plus personne ne comprenait rien. Peu importe, je n'insiste pas là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que c'est bien à cette époque qu'apparaissent les dictionnaires, qu'apparaissent les auteurs de pure langue française. En 1549, Joachim du Bellay écrit « Défense et illustration de la langue française ». On est bien dans l'imposition de ce qui autrefois était l'ancienne langue royale et qui peu à peu va devenir celle de l'ensemble du territoire, je dis bien peu à peu, de très grands noms. Et il ne faut pas évoquer la saga du français sans citer le nom de Malherbe, évidemment, sans citer le nom de Corneille. Ces grands auteurs vont donner aux Français ces lettres de noblesse, vont l'imposer, et celui qui va institutionnaliser les choses, c'est, vous le savez, le cardinal de Richelieu lorsqu'il crée l'Académie française en 1635, une académie chargée justement de prendre soin de la langue, de la structurer, de figer à jamais, en tout cas de formaliser sa grammaire et puis d'établir un dictionnaire qui fait rire tout le monde depuis des siècles, mais qui, entre parenthèses, est un dictionnaire de très grande qualité auquel je renvoie nos auditeurs. Alors au cours du XVIIIe siècle, le français classique devient le français moderne. C'est la grande époque où le français s'exporte loin de nos frontières. Vous savez, ça devient la langue de toutes les cours et puis bientôt la langue diplomatique. Les grands dictionnaires, autres que celui de l'Académie, le Larousse, le Littré, etc., deviennent des ouvrages de référence absolue. La langue, on peut dire, elle est clairement figée, strictement établie depuis la fin du XVIIIe siècle. Elle est devenue quasiment classique depuis le tournant du 19e siècle. Aujourd'hui, on a tendance à la maltraiter un peu trop souvent, à la mélanger. On ne fait pas très attention à la façon dont on la parle. C'est bien dommage, mais ça nous entraînerait dans de tout autres développements.